sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Comme le veut la tradition, les cinq académies qui forment l'Institut de France se réunissent chaque année le mardi le plus proche du 25 octobre, en souvenir de la création de l'Institut, le 25 octobre 1795. À cette occasion, un délégué de chaque académie prononce un discours sur un thème choisi. Cette année 2008, le thème collectivement choisi était l'éducation. Bernard Bourgeois, de l'Académie des sciences morales et politiques, a intitulé son discours « Réinstituer l'éducation en sa raison ». Grâce à Canal Académie, entrée sous la coupole.
L'éducation semble aujourd'hui plus vivante que jamais, et dans la réalité, et dans les pensées. Dans la réalité, les métiers d'éducateur prolifèrent, les formations se diversifient, les écoles se multiplient de par le monde. Dans les pensées, qui, aujourd'hui, ne dit pas son mot sur l'éducation? Il est vrai que, semblablement, il y a 200 ans, peu après la fin du siècle, qu'on appela le siècle pédagogique, celui, en un sens, de Rousseau et de Pestalozzi, mais en un autre sens, dans l'autre sens, de Condorcet et de Kant. Tel auteur constatait que dans les familles, dans les réunions de société et dans les salles de cours, l'éducation était le maître mot. Son ouvrage traitait déjà de l'éducation des éducateurs. Il illustrait bien ainsi le retour sur soi, le recourbement sur soi, le cercle narcissique d'une entreprise souvent tentée de se nourrir d'elle-même dans un lassant formalisme. À cet égard, les choses n'ont guère changé. Ce qui a changé, c'est le contexte de cette inflation pédagogique. Elle était autrefois programmatique, soulevée par la volonté largement consensuelle de faire s'accomplir l'institution de l'éducation. Elle est maintenant une réaction en elle-même très conflictuelle à la mise en cause réelle du caractère institué, institutionnel de cette éducation. Or, l'inversion du sens de la relation entre l'institution et l'éducation est décisive pour le destin de cette dernière. Car si, d'une part, toute institution est un tout autonormé, s'autonomisant par là dans le flux social, et qui noue en lui, entre eux, un objectif valorisé, des procédures réglées, ainsi que des agents au rôle fixé, et si, d'autre part, l'éducation est un tel tout, mais ordonné lui-même à l'objectif total, puisqu'il s'agit de l'humanité s'élevant à elle-même en se transmettant à chaque homme, alors l'éducation n'est pas simplement une institution, elle est l'institution par excellence. N'a-t-on pas d'ailleurs dénommé institution les maisons d'éducation ? L'éducateur est toujours et partout l'instituteur qui élève l'homme. Et toute éducation, aussi bien familiale et sociale que proprement scolaire, comporte à sa façon, selon son mode, la relation nucléaire du maître et de l'élève. C'est pourquoi une éducation qui ne veut plus, même à l'école, du mot d'instituteur, et qui n'aime d'ailleurs guère plus celui d'élève, montre qu'elle ne sait plus ce qu'elle fait, ni ce qu'elle est. On en est pourtant venu là. Dans les dernières décennies, la complexification accélérée d'une existence socioculturelle aussi intensivement éprouvée, que ce soit dans l'élan de l'allégresse ou les élancements de la détresse, condamnait l'institution en tant que telle, L'institution dont la normativité structurante exige de la vie qu'elle s'établisse, qu'elle se stabilise, et cela à distance d'elle-même. On dénonça donc comme mortes des institutions bien réelles et qui parfois résistent encore. Inversement, on réclama la reconnaissance statutaire ou institutionnelle de l'excès même de la vie en ses excès, pseudo-institution dérisoire de la négation même de l'institution. Cette double contradiction, redoublée devait miner, bien sûr, d'abord l'institution des institutions qu'est l'éducation. Ces objectifs, service de la communauté, transmission culturelle, accomplissement personnel, furent brouillés. Ces lieux, famille, école, société, furent chacun à l'intérieur de lui-même et tous entre eux désarticulés. Ces actes et ces acteurs furent replongés de la normativité des rites et des rôles qui étaient les leurs dans l'interaction apparemment vivifiante d'un éduqué et d'un éducateur qui dissolvait leurs différences institutionnelles dans la variété, la diversité infraculturelle destituant aussi l'école du jeune et de l'adulte de référence, comme on aime à dire. Négociant, oui, négociant entre eux, en tant qu'être purement naturel, simplement différent par l'âge, ce qui ne pouvait être qu'un semblant d'institution de leur rapport éducatif, ils empêchaient dès lors celui-ci de naître, et l'acte éducatif se singea désormais dans l'insignifiance. Ne voulant plus être réellement instituée, l'éducation à une vie qu'elle devait élever au-dessus d'elle-même se rabaissait bien à la simple répétition absolument inutile de cette vie, et se niait par là comme éducation. Nombre de ces théoriciens et de ces praticiens firent alors de la nécessité d'un tel processus une vertu qu'ils crurent d'autant plus pouvoir justifier que lui-même, ce processus, semblait prouver, semblait vérifier, entre autres, un grand projet se voulant révolutionnaire du nouveau monde. L'Amérique, en effet, avait bien appelé, voilà un siècle, à travers un Dewey, à cultiver immédiatement, pour eux-mêmes, à l'école, à travers leur heureuse conjugaison, ménagée par la vie en cette école libérée, à la fois l'épanouissement de l'individu et sa socialisation. L'idée, en fait, était encore plus ancienne et elle est toujours présente dans un débat éducatif dont il faut bien dire qu'il est, au fond, bien peu novateur. Aussi bien l'idée antagoniste de l'éducation comme relation, comme médiation institutionnelle, entre l'homme advenant et l'homme fait, y avait fixé, elle depuis toujours, ses principes. Que retenir donc aujourd'hui de ce débat ? Vrai est l'idée dite nouvelle de l'éducation, à savoir que l'éduqué, parce qu'il fait sienne la libre influence sur lui de l'éducateur, s'éduque lui-même librement. C'est pourquoi, pas plus qu'il n'est possible, car l'histoire ne rétrograde pas, elle voue à l'échec la simple restitution ou restauration, il n'est bon, car on n'est jamais trop libre de revenir en deçà de l'intensification actuelle de la demande de liberté dans l'éducation. Mais encore doit-il s'agir de la liberté vraie. Or, celle-ci, comme autodétermination, c'est-à-dire autodélimitation, bref, auto-limitation, introduit entre soi et soi une rupture, une négation. C'est ce moment du négatif, mais de valeur si positive, qu'il faut réintroduire dans l'éducation en la réinstituant. Or, immense est la tâche de rendre à nouveau présent pour le soi éduqué son négatif. L'autre qu'il doit devenir à travers le moment aliénant essentiel à toute éducation. Cet autre que l'éduqué est déjà en puissance, latent en lui, caché d'abord en lui, doit nécessairement se manifester à lui d'abord comme la puissance extérieure d'un éducateur ayant autorité sur lui. Cette autorité ainsi actualisée est plus profondément celle des pouvoirs, des savoirs et des vouloirs en lesquels s'est formée l'humanité et qui constitue par là l'être même de cette grande éducatrice. Ils doivent donc être reçus avec ordre et rigueur quant à la méthode pédagogique et suivant leur ordre propre quant au contenu transmis. Loin des fantaisies subjectivistes, de l'éducation en sa dérive pluridécennale, il faut rétablir en même temps la discipline et les disciplines. Assumer sans honte, oui, assumer sans gêne, l'inégalité de la relation éducative qui, d'ailleurs, n'exprime au fond rien d'autre que l'autonégation en l'homme de son inégalité encore existante à l'humanité accomplie. Tâche difficile, surtout aujourd'hui, puisqu'il faut reconnaître la liberté première de l'éduquer plus fortement revendiquée que jamais. Tâche qui requiert la maîtrise de la contradiction structurelle, désormais aiguisée de l'acte éducatif, à savoir traiter l'éduqué en même temps comme déjà libre et pourtant comme étant encore à libérer. Déjà libre, car la liberté, ce commencement absolu, ne peut naître que d'elle-même. À libérer, car elle n'est qu'en naissant sans cesse d'elle-même, qu'en ne faisant pas qu'être et se subir, mais en se faisant, qu'autant qu'elle se libère précisément d'elle-même la liberté en se réglant. L'éducation doit aujourd'hui ainsi laisser au maximum s'épanouir un être déjà libre, mais aussi en le faisant et ses contraintes, au maximum se libérer sous le commandement en lui de l'humanité, parce que l'homme ne s'affirme jamais simplement à l'indicatif, mais toujours seulement à l'impératif, c'est-à-dire sous une loi. L'éducation française dans l'école républicaine n'a pas réussi si mal à concilier le soin de la spontanéité des élèves, cultivé dans le jardin, c'était le mot de Jules Ferry, de la leçon de choses, et la discipline de l'apprentissage traditionnel de la grammaire, hérité des si efficaces instructeurs de la célèbre compagnie. L'école fut alors plus sage en son exemplaire pragmatisme, oui, j'insiste, pragmatisme, que les idéologies contenues en tous sens en elle et dont l'explosion doctrinaire ultérieure allait la faire éclater. Le salutaire pragmatisme de l'éducation confirme bien celle-ci comme un art, sans doute le grand art à réhabiliter en tant que tel sans délai. Un art, il faut le rappeler en notre temps, contre la prétention qu'ont parfois, que dis-je, qu'ont souvent, que dis-je encore, qu'ont trop souvent, les sciences de l'éducation à se faire par elles-mêmes éducatrices. En tout son intérêt, la rationalité savante découverte dans la Genèse et le fonctionnement des structures de l'esprit laisse cependant échapper la liberté suprastructurelle de cet esprit. Cette liberté se détermine par des raisons, et non pas simplement par des causes, par ces raisons qui lui soumettent à chaque fois, dans la mise en ordre qu'elle fait d'eux, les liens fonctionnels et les enchaînements de la causalité. L'esprit se comporte en cela raisonnablement, car la raison existe et s'expérimente comme la puissance personnelle d'unification, de mise en cohérence, de totalisation de l'existence. C'est là le fondement du sens de la responsabilité qui doit réinvestir tout le champ de l'éducation. Oui, assurément à la rationalité, mais le rationnel, ce neutre substantivé en elle, ne doit pas neutraliser le sujet responsable, raisonnable, qui actualise en lui la raison même, la simple raison, fondamentalement pratique ou morale, comme Kant l'a si bien vu. Plutôt donc la raison, première et dernière, que seulement la rationalité, ou, car elle se brise dans les différentes sciences, les rationalités. C'est cette raison, originairement et à la fin des fins, simple, immédiatement agissante, comme bon sens, qui doit présider, enfin, à la réinstitution urgente de l'éducation. La raison dans l'éducation, mais une raison proprement éducative. Car si la raison systématise en les harmonisant toutes les dimensions de l'existence, elle le fait à chaque fois suivant les exigences de la dimension où elle s'exerce. L'éducation, l'auto-éducation de l'humanité à ses exigences propres, immanentes, qui s'expriment dans son institution et dont la méconnaissance l'a fait échouer. C'est le cas notamment lorsqu'on veut ramener la raison éducative à la raison sociale ou à la raison citoyenne, ainsi dit-on en cette période de civisme tempéré. Certes, le monde de l'éducation s'ouvre sur le grand monde, mais c'est comme sa fondation, non pas comme son reflet, ce qu'il est toujours, malgré lui, toujours trop. Il faut en lui remettre à l'œuvre la raison éducative dont l'explicitation philosophique, je le souligne, c'est assez rare, a fait exceptionnellement s'accorder à son sujet tous les grands penseurs. Au service de l'idée ainsi forte de cette raison, qui est justement à sa mesure l'État, doit mobiliser sa force extérieure de puissance toujours souveraine sur Terre, aussi et peut-être surtout quand elle se limite. Car la libéralité est la mesure de l'autorité véritable, de même que la bonté est la mesure de la puissance vraie. L'État doit donc se faire ainsi le chevalier de l'éducation nationale, dont la réinstitution passe d'abord par lui, l'institution qui institue. Il a trop souvent été lui-même perdu par l'irresponsabilité qui se répandait dans l'éducation, dans les difficultés, et Dieu sait qu'elles étaient grandes, alors qu'il devait savoir, alors qu'il pouvait savoir, trop souvent, il n'a pas voulu savoir, s'offrant au jugement, probablement sévère, d'une postérité certainement surprise. Mais enfin, je crois que le temps est effectivement désormais venu ou revenu pour l'État de vouloir, et de vouloir parce qu'il épuise sa plus grande force, de vouloir que soit l'éducation en sa raison, en sachant toutefois que celle-ci fait porter intérieurement son ordre propre, par une vie propre, la sienne, qui est la haute vie de l'esprit. Cette vie au plus loin de l'activisme vide, où se complaît une médiocre pédagogie ne s'intéressant qu'à elle-même, élève l'esprit à lui-même par la fréquentation réitérée de ce qu'il est, c'est-à-dire parce que l'esprit est en se faisant de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait, de ses œuvres, de ses grandes œuvres, les fréquenter, celles-ci, dans l'admiration. Soulevé par leurs sublimes difficultés, l'esprit éprouve le gai savoir de la victoire sur soi. La pédagogie de l'admiration devient ainsi également la pédagogie de la fierté. Alors grandit à ses propres yeux l'éduqué s'enhardi jusqu'à se faire examen critique, interrogation libératrice, s'inclinant devant ce qui est grand, devant ce qui est beau, suscité et appelé par eux, il se redresse. Et sans vanité ni caprice, il ose. Il faut, et voici l'essentiel, que renaissent ces deux pédagogies, la pédagogie de l'admiration et la pédagogie de la fierté, ces deux pédagogies tellement absentes de nos jours. Dans leur tension vivifiante, car elle est telle par la vie vraie propre à l'esprit, elles ne font pourtant qu'une pédagogie qui est la grande pédagogie, qui est toute la pédagogie. La réinstitution à venir de l'éducation à travers une telle pédagogie ne peut donc se fonder qu'à l'école de celui qui jadis l'inaugura. L'école du grand éducateur de l'humanité qui, dialoguant en quelque sorte avec lui-même, s'entre-exprima à la fois dans la parole vive, la plus interrogeante, car c'était Socrate, et dans l'œuvre écrite, la plus admirable, car c'était Platon.
Canal Académie vous invite à écouter l'intégralité des discours tenus sur le thème de l'éducation. À l'occasion de cette rentrée solennelle de 2008, retrouvez les discours d'Edith Cana de Chézy, de l'Académie des Beaux-Arts, de Franciscus Verhelen, de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, de Pierre Léna, de l'Académie des Sciences, et enfin de Jacqueline de Romilly, de l'Académie française.